France Musique. Les grands entretiens. France Musique. Émilie Munera.
Je suis Juliette Hurel. Je suis née le 14 mai 1970 à Auxerre et j'ai le bonheur d'être flûtiste.
Vous enregistrez des disques, alors je ne sais pas si vous les réécoutez, mais au moins est-ce que vous écoutez d'autres disques? Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous écoutez des disques chez vous, Juliette Hurel?
Peu. En fait, moi j'ai appris à beaucoup aimer le silence. J'adore en fait le silence, mais ça c'est arrivé après avoir été maman. Peut-être besoin de
trop de bruit des enfants.
Je ne sais pas, parce que c'est très gai des bruits d'enfants en même temps. Mais ça me plaisait, ça me reposait. Si j'écoute, je vais remettre les cantates de Bach, mon coffret là, que j'adore. Il y a un disque que j'ai beaucoup écouté, c'est les sonates de Haydn avec Pogorelitch. C'est Pascal Dussapin qui m'a fait découvrir ce disque, je connais par cœur. Et c'est très joyeux. Pim, pam, plum, pom, 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 je connais par cœur. Donc si je vais cuisiner ou quoi, je peux mettre ça. Mais pas des trucs que je vais jamais, étonnamment, mais je vais pas mettre ce que je joue à l'orchestre. Non pas que j'adore, hein, mais je vais pas mettre une symphonie, gros truc. Je vais pas mettre un truc, je dirais pas plombant, mais pourtant les symphonies de Brahms, alors j'adore ça, mais je mettrai pas un disque des symphonies de Brahms.
En tout cas, vous êtes pas aussi discophile que votre papa ou vos parents qui écoutaient beaucoup de musique
non.
Chez vous.
Mais même ma maman, mais c'est hallucinant. Mais elle, c'est pas des disques, c'est la radio. On continue. On connaît tout le programme. Alors France Musique, à l'envers, à l'endroit, elle connaît tout. Si, elle va mettre des disques, c'est faux, en fait, ce que je dis. Non, mais je pense qu'il y a... C'est les musiciens, on en fait toute la journée de la musique. Et... Non, mais on va écouter, on écoute beaucoup de... Pas de musique classique, donc comme je vous ai dit, de la musique brésilienne, beaucoup. Beaucoup. Surtout là, le premier confinement, tout ça, beaucoup. C'est bon, c'est soleil, c'est relaxant.
Il faut aller au Brésil, alors, peut-être, pour rencontrer ces musiciens.
Mais vous savez que j'y suis allée. Alors, j'étais incroyable. Je suis allée une fois avec Benoît, justement, pour jouer le concerto de Mozart, avec mon mari qui dirigeait, Benoît Fromanger. Et là, c'était fou, parce que dans la rue, mais il y a de la musique partout. Et donc, au café, il y avait un des musiciens de l'orchestre qui jouait dans un petit groupe. Et puis là, on s'assoit et les gens chantent. Et... Non, il y a un rapport à la musique qui est tellement différent. Puis c'est très corporel aussi. Mais aussi, j'ai eu la chance d'aller en Colombie deux fois. Cartagène, un festival somptueux avec le Quatuor Voce et François-Xavier Roth, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi très important dans ma vie musicale. Et là, dans les supermarchés, mais ils écoutent la musique de leur pays, quoi. Il n'y a pas de boum-boum. Mais c'est génial, la vie de la musique là-bas. Non, il y a un vrai truc.
Il y a un naturel par rapport à la musique, peut-être un naturel plus prononcé que dans nos pays européens.
Oui, je pense. Mais de la musique traditionnelle, en fait. Que nous, ici, on ne va pas écouter des gavottes et des bourrées. On n'écoute pas ça. C'est dommage. Peut-être ça marcherait dans les supermarchés et dans les H&M et les trucs. C'est insupportable. Je ne sais pas comment font les pauvres vendeuses des magasins d'habits. Mais c'est assourdissant. Et bien là-bas, c'est leur musique. Et puis ils sont là, dans le supermarché, avec le caddie, et que je te trémousse. C'est génial. Non mais quand on sera plus âgé, on ira plus là-bas. Moi j'en vis, moi.
Et de travailler peut-être avec des grands musiciens brésiliens.
Qui sait Qui sait Non, mais c'est... Non, puis Cuba, par exemple. J'ai très envie d'aller à Cuba, je ne suis jamais allée. Et puis on écoute Chet Baker, beaucoup aussi.
Ah, donc vous avez toujours la passion du jazz de votre
père. Mais ça, c'est mon mari, ça.
Ah.
Parce que mon papa, il n'écoutait pas Chet Baker. C'était pas trop ça, le jazz qu'il aimait. Mais mon mari, lui, par contre, il écoute beaucoup de musique. Mais beaucoup de jazz. Beaucoup de jazz et de musique brésilienne. C'est essentiellement en ce moment, hein, ça peut changer après. Hein.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, my irreplaceable you. just one look at you, my heart grows tipsy. You and you alone bring out the gypsy in me.
Je voulais dire un petit mot sur un grand musicien de musique indienne. J'ai entendu que vous avez rencontré un certain Chaurasia.
Ah, ça fait plaisir que vous parliez de lui. Alors lui, je l'adore aussi. Alors là, vous voyez, encore une fois, Rotterdam, incroyable. Comme quoi, parfois, on se dit, mais je ne suis pas quelqu'un de très branché, étoile, machin, mais je me dis, il y a quand même d'heureux hasards. J'étais à Rotterdam et j'étais allée écouter plusieurs fois Chaurasia au Théâtre de la Ville, avec un immense bonheur, enfin bon, découverte de ça, de cette musique, et puis lui, un homme qui a l'air tellement doux, gentil. Donc je crois qu'arrivé à Rotterdam, j'avais quelques amis qui étaient étudiants, d'ailleurs pas des gens de l'orchestre, et donc je fais écouter ça à mes copains, parce que je trouve ça super beau. Enfin, c'est une autre unité de temps, quoi. C'est ces morceaux qui durent. Et ce copain me dit, mais tu sais pas quoi, Chaurasia, il est prof ici, à Rotterdam. Mais je dis, mais c'est pas possible. Parce qu'à Rotterdam, il y a un département de musique du monde très réputé. Et là, je me dis, c'est pas croyable. Et cet ami, à l'époque, me dit, il y a un concert, des présentations des professeurs de musique du monde. Je dis, je fonce. Donc, je l'entends dans ma ville, à Rotterdam, dans ma salle de concert, le Doelen, dans ma deuxième maison, comme je l'appelle. Et je vais le voir à la fin. Et je lui dis, vous savez, j'aimerais vraiment vous rencontrer un peu plus et vous inviter peut-être au concert ici. Il me dit, viens demain, écoutez mes cours. Donc j'y vais, j'arrive, il me fait asseoir un tailleur, il souffle dans ma flûte en or, enfin génial. Et moi, je l'ai invité à venir écouter, on jouait la pastorale, il est venu et il n'avait jamais entendu de concert de musique classique.
Étonnant.
Très étonnant. Et donc j'ai demandé que mes élèves aient une masterclass avec lui. Donc on est tous allés dans sa salle de classe, ils se sont tous assis par terre et il leur a donné un cours sur les ragas.
Quel genre de flûte joue-t-il ?
Lui ?
Oui.
Ça s'appelle un bande-souris, c'est une flûte en bambou, sans clé. C'est magnifique. Mais là, du coup, tous les élèves ont joué sur leur flûte. C'est pas grave, parce qu'il y a des modes. Puis après, tous ces rythmes incroyables. Et... Oh, c'était génial.
Vous avez aussi, joué avec lui, du coup ? Non, vous
savez, vos élèves. Pas vraiment, mais faut savoir que cette flûte, il faut avoir c'est éloigner les trous. Hein. Je ne me risquerais pas à m'y mettre. C'est juste que c'est très différent de nous. Et il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, mais moi, les dernières années, j'ai eu pas mal de problèmes de mécanique corporelle. Donc, je fais assez attention quand même. Et c'est pour ça aussi que le traverso, je n'ai pas envie de m'y mettre, parce que on a un métier quand même extrêmement exigeant pour le corps, pour la tête, vous l'avez compris, mais pour le corps aussi. Hein,
Oui, les positions sont difficiles.
Oui, mais la flûte, c'est pas l'instrument le plus naturel qui soit. Donc j'ai eu pas mal de soucis les dernières années.
Lesquels ?
Comme soucis ?
Oui.
Des problèmes d'épaule, de bras, des soucis très handicapants et qui et on n'en parle pas. Et c'est là qu'on se rend compte le nombre de musiciens qui ont mal, mais qui ne le disent pas. Et ça, c'est dommage, mais on a peur d'en parler, on a peur de passer pour la nana qui en fait trop. Ben, c'est pas étonnant qu'elle ait mal, elle en fait trop. Donc c'est très solitaire, la douleur. Hein. C'est pas du tout... Puis on ne veut pas inquiéter les siens. Donc c'est dur, ça. Et du coup, et ce qui est très dur, c'est qu'on ne peut pas travailler autant qu'on veut. Donc on est stoppé. Donc du coup, jouer devient encore plus spécial et encore plus merveilleux. Mais on n'en parle pas de ça. Je trouve important de le dire.
Comment on fait alors justement pour s'en sortir? Est-ce que vous avez fait pour pouvoir retrouver la forme? Est-ce que c'est fini aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a toujours une hygiène?
Non, c'est toujours difficile.
Ouais.
Mais on voit 1000 kinés. On cherche le meilleur kiné, le meilleur ostéo. C'est difficile. Hein. C'est vraiment difficile. Mais ça va mieux, heureusement.
Ça vous a beaucoup, j'imagine, aussi angoissé de vivre une période comme ça, surtout si vous n'avez pas pu le partager forcément avec vos collègues musiciens.
Non, oui, c'est angoissant, oui. Et puis même au sein de la famille, on ne va pas dire tous les jours j'ai mal, non, je ne peux pas, j'ai mal, non, je ne peux pas porter ça, j'ai mal, ça. Mais bon, c'est un tout, hein, c'est peut-être pas... Mais il y a beaucoup de musiciens qui ont très mal. Et donc on ne se rend pas compte. Ce n'est pas assez dit à quel point le métier de musicien professionnel, c'est vraiment du sport de haut niveau. Mmh. C'est vrai.
Et les sportifs sont accompagnés par des kinés personnels, évidemment, mais ce
oui.
qui n'est pas votre cas.
Mais non, pas du tout. Mais regardez, c'est dans une de vos émissions, d'ailleurs, Léon Fleischer parle très bien de ça, que son kiné lui avait dit « Vous êtes des sportifs de haut niveau, des micro-muscles, en fait. » Ça va mieux aujourd'hui, hein, quand même, que dans le passé. Il y a souvent dans les conservatoires, maintenant, il y a des kinés, puis il y a tout ce qui est technique Alexander et tout ça, beaucoup plus développé qu'à mon époque. Mais moi, quand j'ai des nouveaux élèves, je fais toujours un premier cours, un peu de checklist, savoir qu'est-ce qu'ils ont comme hygiène de vie, combien d'heures ils travaillent par jour, parce que parfois on entend des trucs hallucinants, parce qu'il y en a qui travaillent 7 heures par jour, alors que c'est tout à fait pas du tout utile, et qui ne font pas de sport, moi je fais beaucoup de sport, qui n'ont donc pas d'hygiène de vie, qui arrivent de leur pays, ils ont 17 ans, ils ne savent pas cuisiner, ils sont seuls, ils sont déprimés, donc moi je fais très attention à ça, et je leur demande s'ils ont mal. Est-ce que tu as mal en travaillant? Et là, justement, j'ai une petite néerlandaise de 17 ans. Elle a, depuis qu'elle a commencé, toujours eu mal au poignet. Et personne lui a rien dit. Et on laisse s'installer un truc comme ça. C'est pas quelque chose qui est assez pris en compte. Je pense que même alors, je sais qu'il y a certains orchestres où il y en a un en Hollande, notamment l'orchestre Netherlands Philharmonique. Le matin, il y a une kiné ou une, je sais pas, oui, je pense qu'il leur fait faire des mouvements pour ceux qui veulent. Un réveil musculaire. Et quand on voit quelqu'un dans le couloir faire un truc d'épaule, on dit « Oh là, il doit avoir mal celui-là !» Alors qu'on devrait tous faire ça, en fait. Un petit réveil, cool, et c'est pas normal. Ça va peut-être évoluer, j'espère.
France Musique, les grands entretiens de Juliette Hurel.
Les grands musiciens qui vous ont porté, je crois que Maurice Ravel est aussi un peut-être de vos amours. Alors, il y a ce Daphnis et Chloé qu'on a entendu avec l'orchestre de Rotterdam. Je sais que vous avez entendu il n'y a pas si longtemps sur France Musique le Jardin féerique. Vous m'avez dit, oh là là, ça c'est le plus beau morceau. Oui. Maurice Ravel, c'est vraiment un compagnon aussi de route, c'est
alors,
important.
Maurice Ravel, c'est mon compositeur préféré. De tous. J'ai une connexion. Et j'ai même rêvé de lui. J'ai rêvé que je lui parlais.
Qu'est-ce qui se passait dans ce rêve ?
Mais c'était génial. J'arrivais dans une grande salle assez lumineuse. Et il était assis à une table ronde là-bas avec une madame. Je vais le voir, j'ai dit, mais Maurice, mais vous êtes vivant ? Mais on ne me l'a pas dit ! Mais c'est génial, mais... Et c'était une dame très gentille qui était en train de lui apprendre un peu à se servir d'un téléphone portable. Il ne comprenait rien. Et il était là et je suis tellement heureuse de vous voir. Vous ne pouvez pas savoir, c'est magique. Donc, non, cette musique me touche immensément. Immensément. Et donc, ma mère Loi, le Jardin féerique, avec Yannick Nézet-Séguin, on jouait toujours ça en bis en tournée. Et à chaque fois, je pleure. C'est systématique. Systématique.
Vous pleurez en jouant ?
Mais oui, c'est très difficile.
Bah, comment on fait ?
Bah, ça coule. Ça coule les larmes.
Oh non !
Si ! Non, mais je ne peux pas vous dire cette musique, ce que ça me fait. Alors maintenant, en plus, grâce à ce spectacle sur Missia, certes, je connais un peu plus sur lui. J'en connaissais pas mal, mais ma mère Loi a écrit pour Mimi et Jean Godepski, qui étaient la neveu et nièce de Missia, certes. Et de savoir qu'ils n'ont pas pu faire la création parce que c'était un petit peu trop dur pour elle. Mais moi, j'aime bien jouer un petit peu au piano, ma mère Loi.
Connecté comme artiste, je ne sais pas pourquoi je pense à ça parce que vous me dites Maurice Ravel était sur son téléphone. On apprenait à Maurice Ravel à jouer, à se servir d'un téléphone portable. Est-ce que vous êtes très connecté au 21e siècle ? Comment ça se passe d'être un artiste ? Est-ce qu'il faut qu'on ait tout de suite son téléphone portable, qu'on soit dessus tout le temps ?
Mais non, mais je déteste ça, moi. J'ai été très récalcitrante au smartphone. Je l'ai depuis très peu de temps, le smartphone. Non, puis ça me stresse, moi. L'ordinateur, c'est un facteur de stress pour moi. Je veux dire, ça me fatigue. Et il faut savoir que le métier de musicien classique aujourd'hui, on a beaucoup de travail sur les emails, répondre aux agents, les agendas, les billets de train, les billets d'avion. Il y a beaucoup de logistique, en fait. On ne s'en rend pas compte. Hein. Et ça prend beaucoup de temps derrière l'écran. Et j'aime pas du tout ça. Mais pas du tout, du tout, du tout. Non, et de plus en plus, c'est embêtant. Hein. Donc, parfois, je me dis, allez, tu prends une heure, tu t'y mets. Et puis, alors, moi, je suis la reine des listes. Et alors, barrer le bonheur, hein, barrer sur la liste les trucs à faire. Non, et puis même tous les trucs de la vie courante, des trucs d'ordinateur. Non, c'est j'aime pas du tout ça. J'ai pas d'application, j'aime pas ça. Si, France Musique, c'est l'application que j'ai mon téléphone pour écouter les émissions.
Vous êtes notre meilleure ambassadrice, Julia Thuram.
Non, mais l'émission, les trésors de France Musique, mais... Il faut écouter les émissions de Marguerite Long, l'émission de Marguerite Long, mais d'abord le vocabulaire. Non, mais moi, peut-être que je suis pas trop de ce temps. Moi, j'aurais voulu vivre, j'aurais voulu les connaître. Maurice, tout ça.
Tous ces musiciens du XXe siècle.
La Madeleine est repartie.
Ne pleurez pas.
Mais Claude Debussy, J'aurais aimé là, être là, moi. Je crois que j'aimerais plus cette époque-là. Aller au concert, aller au théâtre, tout le temps.
Puis la culture avait une place qui n'est pas celle d'aujourd'hui.
Mais oui, enfin, ça vit, quoi. C'est que du vivant. Bon, évidemment, il fallait avoir un statut aussi social. Hein. Tout le monde ne pouvait pas se permettre ça, mais... Non, puis je sais pas, les guinguettes, la peinture. Enfin, moi, je suis très, très, très amatrice d'impressionnisme. Le rapport au temps, beaucoup moins pressé. Les voyages, tout n'allait pas si vite. Mais, ah non, j'aimerais bien aller là, dans cette époque-là. J'aime bien vivre en 2021, c'est franchement, il y a des côtés merveilleux, mais se plonger, et ça rejoint mon amour pour l'histoire, que j'avais déjà quand j'étais adolescente, enfin, les anecdotes, mais c'est très excitant. Par exemple, la maison de Missia, qui est près de Fontainebleau, il faut que j'aille faire un tour, il y a encore plein de choses à découvrir sur elle, puis sur les autres.
Vous lisez beaucoup, d'ailleurs ?
Je lis.
En général ?
Oui. Ça dépend, par période. Là, je suis en train de finir Les Misérables. Grand moment. Alors là, je conseille...
Là, il faut avoir le temps. Hein.
Oui, j'ai le temps. Je crois que j'ai commencé il y a 2 ans. J'ai commencé il y a 2 ans, mais j'ai lu plein d'autres livres entre. J'ai une passion pour les poésies de Victor Hugo. C'est somptueux.
Depuis l'école ?
Non, je détestais la poésie. C'est venu à 40 ans. Je détestais la poésie. Je ne comprenais rien. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Et il y a des poèmes de Victor Hugo. Mais... Elle avait pris le pli, pour ceux qui connaissent par exemple. Mais alors, mais c'est beau, mais c'est tellement beau. Et donc, dans Les Misérables, il y a des... Alors là, le passage que j'ai lu, et que j'ai lu d'ailleurs à plusieurs amis, à Hélène, pas plus tard qu'hier, à Justine, pas plus tard qu'avant-hier, le passage où il parle de l'amour, le grand-père de Marius, quand il se marie, fait un laïus sur l'amour, à Marius et Cosette. Alors là, somptueux.
De quoi est-ce que vous rêvez aujourd'hui, Julia Turel ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
De quoi je rêve ? De continuer à jouer de la flûte le plus longtemps possible, avec joie, et de partager le plus possible avec mes amis musiciens et le public, et que les gens aussi qui m'entourent, les plus proches, surtout, aillent bien le plus longtemps possible.
Merci beaucoup, Julia Turel.
Merci à vous.
C'est avec cette fantaisie de forêt que s'achèvent les grands entretiens de la flûtiste Juliette Hurel. Vous pouvez réécouter et podcaster cette série d'émissions sur notre site internet francemusique.fr. Merci à Lucas Derode, Gilles Blanchard, Marie Le Peintre et Flora Sternadel.
À réécouter sur francemusique.fr.